J'ai les carreaux de sucre.
Il y a des vertiges.
J'ai eu un petit moment.
Prenez un peu de sucre.
À la bouteille, à la bouteille.
À la bouteille.
Plus sec, plus sec.
À la bouteille, il faut la terminer, hein, ça va pas.
Plus sec, plus sec.
Ça va.
Pourquoi les gens sont sales? Ça m'énerve. On met le livre, après ça salit.
Tu vois, il va nous faire le coup de Chaptaï.
Attends,
tu vas voir.
C'est ça?
Il va nous faire le coup.
Top, rabotaille.
Aïe,
t'as vu, c'est incroyable.
Oh, les bons trucs.
Moi, je le
mets ici,
d'accord ?
Regarde, ici aussi. Pas possible.
Aïe. Non, Richard, le maître. T'as vu ce que t'as fait ?
Non, c'est pas Richard.
T'as vu dans quel état tu l'as mis ?
Ah, voilà, c'est plutôt ça.
Tu vois, c'est la fonction.
Le coca de bon matin.
On commence comme ça, hein, on finit, je sais pas, là-haut.
Oui, tu parles.
Très haut.
Non !
On n'a pas entendu.
Ah, comme Tom.
Allez, Tom. Tu t'arrêtes, tu t'assois. Sinon, je vote pas pour toi.
Hein. Ah non, ça va pas.
Bon, trêve de baliverne.
Il y a eu quelque chose qui m'a interpellé là, dans la paracha Miquette.
Ah, dans Miquette, tu veux revenir dans Miquette. Ah, maintenant, on est dans Baligash.
Une question.
Vas-y, dis-moi.
Vous voyez, Miquette, Shnataim, Yamim. Ça peut être autre chose que Yamim, Shnataim. Pourquoi il y a une répétition, Shnataim, Yamim. Shnataim, c'est sûr qu'on parle du temps.
Ouais.
Et dans le temps, il y a les jours. Qu'est-ce que... Bah,
et pourquoi est-ce que c'est marqué dans ça ?
Alors j'ai regardé, Rachid dit rien.
Non.
Et bon, ça m'a interpellé, quoi. Où c'est qu'on est là ?
Là, on est dans Vaïgash. Non, je. Pourquoi est-ce que c'est marqué Shnataim et Yamim ?
Sur la porte ?
Pardon, tu vois ?
Non, c'est moi pour ce qui vous dérange moi.
Pour l'instant, ça va ?
Bon, pas là, ça va.
Tov ! Alors les amis, on y vient, ça y est, parachat de Vaïgash. La parachat de Vaïgash, c'est les retrouvailles.
Oui.
Les retrouvailles.
Bah oui.
Les retrouvailles entre les frères et Yosef. Pourtant, la parachat de Vaïgash va au-delà des retrouvailles, puisqu'elle marque l'une, sinon pas, la chose qui est primordiale pour qu'il y ait peuple juif. De quoi je parle ? Rappelez-vous quelle était la réticence de Yaakov la semaine dernière dans Parashat Miketz quant à savoir est-ce qu'il accepte que Binyamin fasse le voyage en Égypte. Quelle était la réticence de Yaakov ? Pourquoi Yaakov
ne voulait pas ? J'ai
déjà perdu Yosef. Shimon est aussi perdu. Tu veux que j'en perde un troisième ?
Le fils de
Mais il avait peur de...
Donc, ok,
Shimon
j'entends très bien.
Qui est gardé prisonnier.
Qui est gardé prisonnier. J'entends bien. Mais quel va être l'argument amené par Yehuda pour que finalement, Yaakov accepte ?
C'est la royauté. C'est moi, je me porte garant.
Je me porte le garant de lui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il ne peut pas y avoir... un membre du peuple d'Israël que je laisse de côté. Toute
pourquoi,
la paracha de Vaïgash,
je te laisse mes enfants.
Ouais.
Mais c'est pareil.
Non. Parce qu'il lui dit et chne banai tamit. Il lui dit si je ramène pas Yosef, tu tues mes enfants.
Oui.
Ah ben c'est Rachameod.
Ouais.
Je vais perdre un autre enfant et je vais perdre des petits enfants aussi.
C'est débile. Ouais.
Alors, il y a une autre explication de ça parce que, effectivement, ça paraît un petit peu simplé. Et on voit mal comment est-ce que cet argument pourrait convaincre Yaakov. Donc c'est pour ça que certaines explications des chassidim nous disent la chose suivante. En fait, Réhouven, il a proposé à Yaakov autre chose. Il lui a dit, en tant que Bechor, normalement j'ai double part d'héritage. Donc j'ai comme si j'avais deux fils qui devaient hériter. Double part d'héritage. Donc, Etchne Banai, mon mérite d'avoir deux enfants, d'être le Bechor, Tamit, donne ça à quelqu'un d'autre. Et ce serait ça qu'il aurait proposé à Yaakov. Mais Yaakov lui a répondu, mais t'as pas compris, t'es déjà plus le Bechor. Donc ça marche pas. Effectivement, l'argument de Yehuda, c'est de dire, à partir de maintenant, on a compris...
Pourquoi t'es déjà... Pardon, excusez-moi. T'es déjà plus le Bechor parce qu'il a fauté...
Ah, bah parce qu'il a fauté avec Bila, et que donc finalement, c'est Yosef qui va devenir le Bechor. Maintenant, à partir de maintenant, Yehuda... vient dire à papa Yaakov, non seulement je le ramène, mais en fait je les ramène tous. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, se met en place cette notion de Arvut, de Kol Israël Arevim Zebazé, que je ne suis pas prêt à laisser de côté aucun membre du peuple juif. Et ça, c'est le point central de la paracha. Personne n'est mis de côté.
Ça c'est ça le début aussi de la Teshuvah.
Exactement. Et c'est ce qu'on va voir exactement. Ok ? Alors allons-y. Vaïgash et la Yehuda. Alors vous connaissez l'histoire de la fin de la paracha de Miketz. Finalement, ils arrivent. Et Yosef leur fait un dernier test en mettant sa coupe magique dans le sac de Binyamin. Ils le découvrent. Ils se font arrêter. Et Yosef dit, voilà, je vais garder Binyamin en esclave. Vaïgash et la Yehuda vaïomer. Alors le Midrash, il dit que Mazé Vaïgash. Vaïgash, c'est Milchama. Milchama. Milchama, il est prêt à faire la guerre. Alors Midrash nous dit que Yehuda, il a tapé du pied au sol et tout le palais de Pharaon a tremblé. Et à ce moment-là, il y avait à côté de Yosef, parce que Yosef a pris peur, il y avait à côté de Yosef Ménaché, son fils, qui a retapé du pied et c'est tout l'Égypte qui a tremblé. Genre, calme-toi. Tu vas trouver à qui parler. Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Il y a ici une tension qui se met en place. Vaïgash elav Yehuda vayomer bi Adoni. Yedaber na avadecha davar beozne Adoni ve alicha rapecha beavadecha ki kamocha keparo. Je vais te parler et ne t'énerve pas contre moi, je te considère comme Pharaon. C'est une marque de respect ou pas?
C'est
le premier roi. Rachid
dit une chose et le contraire.
Qu'est-ce qu'il dit, Rachid? Regarde. C'est plutôt. C'est-à-dire, il te dit, tu es pour moi aussi important que Pharaon. Donc, c'est Kavod.
C'est le premier rang du Iz.
Voilà. Mais, ou Midrasho, Sofra l'ilkot alav betsarat kmo shelika paro. Allez, désignati Sarah. C'est-à-dire, je te considère comme Pharaon, très bien, Kavod. Donc, c'est-à-dire que tu vas prendre cher comme Pharaon. Oui, c'est-à-dire, ouais. Comme avec l'histoire de Sarah, où et Pharaon avait tenté de lui faire du mal et tout ça. C'est-à-dire, donc on pose les bases. Ouais. Adoni. Charles est Avada.
Il appelle Adoni quand même.
Oui, bah, et pour l'instant, et dans les faits, on ne sait plus pas trop. Charles est Avada, les morts, et Yeshlachem Avoach, va nommer El Adoni, Yeshlano Avzaken, Veyelet Zekunim Katan, Veachiv Med, Veyvater. Ou, levado, leimo, ou leaviv, aevo. Va tomer la vadecha, oridu, elai, va simaini, alai, alavzra. Va nomer la doni, lo yuchal, anar, la zovet aviv, va zovet aviv, va met. Va tomer la vadecha, im lo ired achichem, akatonitchem, lo tosifuni rot panai. Va yi ki alinu ala vadecha, aviv, venaged lo et divre adoni, va yomer avinu, shuvu, shivu lanu mea tochel, va nomer lo nuchal la redet, im yesh achinu akaton, itanu, veyaradnu. כי לא נוכל לראות פני האיש, ואחינו הקטון איננו איתנו. ויאמר עבדיך אבי אלינו, ויאמר עבדיך אבי אלינו, אתם ידעתם, כי שניים ילדה לי אשתי, ויצא האחד מאיתי, ואומר, אך טרוף טורף, ולא ראיתיו עדנה. ולקחתם גם את זה מעם פניי, וקרעו אסון, והורדתם את צוותי ברעש העולה. ואתה כבואי אל עבדיך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו.
Il le dit sur quel ton? Il est le ton d'un enseignant, d'un
les
prêtre,
deux.
Il explique.
Les deux.
Par contre, et, ou bien il est dit d'une manière, dis-moi, tu nous as fait ça, on a fait ça, 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 ça. Attention,
il y a des limites. Il lui dit, avec le ton de l'explication, ouais. Avec l'arme chargée. Ouais. C'est, t'imagines le mec? Bon, alors je vais t'expliquer maintenant. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui explique? Il lui dit, on n'est pas des menteurs. En fait, c'est ça que ça veut dire. On n'est pas des menteurs. Anachnu anche emet. Deux secondes. Rappelez-vous deux secondes de tout le balagan qui réside entre les frères de Yosef et Yosef. Pour Yosef, une chose est sûre, il n'est pas mort. Yosef sait qu'il n'est lui-même pas mort.
Ben oui.
Parce que là, J'enfonce une porte ouverte. Deuxièmement, il est sûr que ses frères l'ont balancé dans le puits.
Ben oui, il a vécu.
Pas de problème.
Ça, c'est sûr. Ouais.
Ça, c'est sûr. Ça aussi. Et il est sûr qu'on l'a sorti du puits.
Mais qui c'est qui l'a sorti du puits?
Les Midianim, d'après le texte de la Torah. Mais que finalement,
il a été vendu
en Égypte. Il est donc persuadé que qui est le responsable de ces malheurs? Les frangins. Et Yehuda, tu as raison, en premier lieu. Ça, c'est le point de vue Yosef.
Mais c'est ce qu'il dit. À un moment donné, il a dit, c'est vous qui m'avez vendu en Égypte.
Il va le dire, deux secondes. On n'y est pas encore. Quel est le point de vue de Yehuda, des frères? Est-ce qu'ils savent qu'ils ont mis Yosef dans le puits?
Oui.
Oui.
Bah oui.
Ça, oui. Est-ce qu'ils savent que Yosef a été vendu en Égypte?
Non.
Bah, a priori, non. Même si Rashi nous dit que oui, le Rashbam, le petit-fils de Rashi, nous dit que c'est pas ton grand-père qui a raison. Et qu'en fait, c'est les Midianim qui ont sorti Yosef, qui l'ont vendu, et les frères ne sont pas au courant. Donc les frères, ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont revenus au puits, et ils n'y étaient plus.
Ouais.
Et ils pensent quoi? Qu'il a été tué par une bête sauvage.
Ouais, mais comment se fait-il dans le puits, il y a pas de sauvage.
Tu poses une très bonne question d'ordre, d'ordre géographique.
Pas touché. Non, là,
comment c'est possible s'il est dans le puits, il y a une bête sauvage? Mais d'accord, il y aurait un cadavre.
Ouais,
et voilà.
Des os.
Voilà.
Des os,
voilà. Mais ça, c'est parce que tu penses puits version Europe. C'est-à-dire, pour toi, un puits, c'est un gros trou qui est creusé et on remplit de l'eau dedans. Et il y a une corde avec un seau.
Ouais.
Mais ça, c'est pas du tout les puits d'Eretz Israël. Les puits d'Eretz Israël, il y a un trou, effectivement, pour faire tomber le seau, mais c'est pas par là que l'eau se remplit. L'eau se remplit par des méchilotes. C'est-à-dire que le puits, en général, il est en contrebas de la vallée, il n'est pas en haut de la vallée.
C'est l'eau courante, quoi.
C'est... pas courante, faut pas exagérer non plus, mais c'est, disons que, il y a des rigoles, voilà. C'est pas par infiltration, par nappe phréatique. Il y a des rigoles qui sont creusées, et qui vont amener au puits.
C'est pas naturel.
C'est un puits.
C'est une citerne, quoi.
C'est une citerne. Voilà, c'est une citerne. Pas un puits, autant pour moi. C'est une citerne, exactement.
Voilà.
Et c'est une citerne qu'on va pas remplir par le haut, mais qui se remplit par les côtés. Donc il y a des petites galeries. Alors évidemment, c'est pas une galerie dans laquelle un lion il peut rentrer. Bien sûr que non. Mais un, des serpents gros, il y en a. Et deux, des petits renards, pas des rongeurs, plus gros que des rongeurs quand même, ils se feuillent, ils se font des petits chemins là-dedans, ils peuvent rentrer. Donc, rappelez-vous ce que nous a dit Rashi quand ils l'ont mis dans le puits et qu'il y a marqué dans la citerne « V'abor rek en bo maim » dit Rashi, nachon maim en bo aval nechashim ve'akravim yesh bo. Donc il a très bien pu être piqué, mordu par un serpent. Il est mort, le serpent a mangé un petit bout, j'en sais rien, et puis après il y a un autre animal qui est venu, qui a pris et qui l'a donc c'est possible cette histoire là et donc il pense Behemet que Tarov Torah Yosef, à tel point que il a été tué par une bête sauvage, à tel point que Reuven, la semaine dernière, lorsqu'il se font mettre en prison. C'est-à-dire, Reuven dit, je reprends le texte de la semaine dernière, regardez, ça vaut le coup, ça vaut le détour. Où est-ce qu'il est? Attends, voir.
Attends.
Ouais, ouais, je t'écoute.
Il y a deux choses qui m'a attiré, c'est le mot bord.
Mm-hmm.
Et le mot prison, j'ai oublié comment on dit prison au début.
Quel est? Betsoa.
Betsoa. Et il était donc pendant vraiment un certain nombre d'années, je ne sais plus, 7 ans, il était dans Betsoa avec les ministres.
Tout à fait.
Et ensuite, il a été sorti du bord. D'après, sorti du bord. Et ce mot bord, on le retrouve à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une analogie entre les deux?
Ah, bah évidemment.
Là,
bien sûr, bien
j'ai
sûr.
Entendu parler de
le bord dans lequel on le met là-bas.
Ouais.
Et le bord dans lequel il va se retrouver en Égypte, c'est la suite.
C'est la suite, oui, il y a quand même...
C'est, tu vois que Yosef, il doit sortir de ça.
Parce qu'on porte, on change de nom.
Non, 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 bien sûr. Nous dit donc Réhouven, lorsqu'ils arrivent en Égypte et machin, et Yosef les emmène en prison. D'accord ? Yosef otam al mishmar shoshet yamim. Vayomer alehem Yosef vayom ashishi zot asu hein ? Et finalement, ils les sortent et ils lui disent, si jamais vous faites ce qu'il faut et que vous amenez votre dernier frère, comme vous avez dit que vous en aviez un, machin. Mais quand ils sont en prison, qu'est-ce qu'il dit Réhouven ? Lorsqu'il les emmène en prison, Réhouven leur dit la chose suivante. Il leur dit, c'est à cause de ce que nous avons fait à notre frère.
Il dit,
ce qui nous arrive,
c'est à cause de ce qu'on a fait. Ils ne savent pas que Yosef les comprend, bien sûr. Ouais. Et il dit « Ve'iné damo nidrash ». Et son sang est demandé. Cette appellation de damo nidrash, on l'a vu dans le paracha de Noach, lorsque Dieu dit que si jamais un animal tue un homme, il est damo nidrash. Donc ça veut dire qu'il pense « Behemet ».
Damo nidrash, c'est...
Son sang est demandé. Donc ça veut dire que Béhémeth, il pense que Yosef est mort. Je sais que ça contredit le Midrash Rabba, mais pas le Midrash Tanhuma. Donc, pour eux, ils se disent, on a tué Yosef. Enfin, on a mis le sien dans le but, mais il a été tué. Et pour Yosef, c'est eux les responsables de la vente. Il y a un quiproquo terrible. Donc là, Yehuda...
En plus de ça, quand cette histoire est arrivée de Yosef, il avait 18 ans à l'époque.
17.
17. Là, on parle, il a 30
ans. Il a 30 ans.
Le temps est passé.
Mais bien sûr.
Les choses se sont un peu transformées.
Mais disons que...
Et en plus, lui, il est peint à la truc des...
Ah, ils ne le reconnaissent pas, mais c'est sûr qu'ils ne le reconnaissent pas. Bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr. Non seulement ils pensent qu'il est mort, mais en plus, il ne ressemble pas au mec qu'ils ont quitté, bien évidemment. Mais Yehuda vient et dit, on a perdu un frère et on pense qu'il est mort. Celui-là, on se battra pour lui. Maintenant, Yosef entend dans ça. Lorsqu'il entend qu'il pense Béhémeth que lui-même est mort, alors il commence à... Peut-être que finalement, mon jugement n'était pas bon. Et Yehuda dit « Venafsho kshura benafsho ». L'âme de Binyamin est rattachée à l'âme de Yaakov qui est Israël. En d'autres termes, sans Binyamin, il n'y a pas Am Israël. On a besoin de Binyamin pour qu'il y ait Am Israël. Pourquoi ?
Oui, mais il faut qu'il y ait Yosef aussi.
Il faut qu'il y ait Yosef aussi, c'est pour ça qu'il faudra... Bah, eux, ils pensent qu'il est mort.
Il est mort, ouais.
Ça, il est mort. S'il est mort, il est mort. Tu peux rien faire.
Mais Binyamin, c'est le seul qui est né en Israël.
Binyamin, c'est le seul qui est né en Israël. Binyamin, c'est la réussite.
Et le Beth Amidash sera construit.
Et le Beth Amidash sera construit chez Binyamin. Donc, si vous voulez, s'il n'y a pas Binyamin, il n'y a pas Israël. Donc, Yehuda dit, moi, je peux aller en exil. Binyamin, non.
Et le Beth Amidash, il est dans le Nahal Benyamin.
Nahal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vaya kiroto ki eina nar va mettre. והורידו עבדיך את צבת עבדיך אבנים וביגון שאולה כי עבדיך הרב את הנער מים אבי למור אם לא אביינו אליך וחטאתי לאבי כל הימים ואתה ישב נא עבדיך תחת הנער עבד לאדוני ונער והנער יעל עם אחיו je prends la place de בנימין כי החל אל אבי והנער איננו איתי פן ירא ברע אשר ימצא את אבי c'est à dire qu'il pense que comme je vous ai dit l'homme Israël peut continuer sans lui mais pas sans בנימין. Et c'est pour ça que Binyamin va être collé à Yehuda dans toute l'histoire juive.
Il y a un petit problème, c'est que Binyamin, on n'entend pas parler. Hein.
Maron ?
Il subit tout.
Il subit tout. Quel âge il a ?
Je ne sais pas. Très jeune.
Ouais. Il doit avoir une vingtaine d'années, non ?
Ah, maintenant.
Quand il est parti.
Quand il est parti.
Quand il est parti.
Quelle différence faut dire ?
Il était tout petit.
Une
vingtaine d'années.
7 ans, non, 12 ans, 13 ans, attends,
mais non, 19 il reste ans, en prison,
13 ans,
non,
plus 2, 15 ans,
25 ans.
Attends, il avait 17 ans.
Yosef.
Yosef.
Ouais. Binyamin avait quel âge à ce moment-là?
Il venait de naître.
Il te dit?
Il y a pas longtemps, peut-être un an. Non,
ça veut dire 31-17, ça fait.
Ah oui, sa mère, elle est morte.
Elle est morte quand?
À Bethléem.
En chemin, oui.
Quand Yosef, et ensuite, il est arrivé. Benjamin, il a 30 ans moins 8 ans.
30 ans moins 8 ans.
22 ans.
8 ans.
À mon avis, c'est 14 ans, il a fait.
Pourquoi? Parce que quand il est parti, quand la promesse d'Akadol Roku de le ramener, Yaakov, dans la maison de son père, c'était quand Yosef est né.
Ouais.
En Khoutzlarez, chez Laban.
Ouais.
Là, il devait partir.
Et il n'est pas parti.
Il n'est pas parti, il est resté 6 ans.
6 ans.
Et quand il est rentré, quand il est parti, il a fait Benjamin ancien, qui a que.
Donc ça veut dire qu'il avait 7 ans.
Ça fait 7 ans.
Donc quand Benjamin est né, Yosef avait 7 ans.
22. 7 ans. Donc quand Yosef il avait 30 ans, Benjamin il avait 23 ans. Voilà.
Et il a déjà 10 enfants.
Il a
déjà 10 enfants. Benjamin, à ce moment-là.
Ils portent tous le nom de son.
Lorsque Yosef, lorsqu'il arrive, toute l'histoire, machin, Benjamin a déjà 10 enfants.
Non, tu veux pas, il y a plus alors. Parce que 23 ans.
Tu sais pas quel âge il s'est marié.
Dans la mesure où.
Il est temps de faire 10 enfants à 23 ans.
À 3 ans. À 3 ans. À 13 ans, tu te maries.
Ah ouais, 13
ans. Un parent, qu'est-ce qu'il y a?
Ouais.
Oui, mais 10, de 13 à 23,
10. 10?
Et
elle a travaillé,
ça fait
un un enfant, ça met quoi 9 mois
oui,
allez, 3 mois de repos et y'en a.
Non, mais on peut dire qu'il a 3 mois
de repos. Bah, et le congé maternité, c'est combien? C'est 3 mois.
On peut dire qu'il a commandé juste avant de rentrer en Israël. Et qu'en rentrant en Israël,
Et puis, je vous rappelle qu'au niveau de la génétique, il y a des risques de jumeaux dans cette famille.
Oui.
En fait, il a eu des jumeaux.
Oui.
C'est pas. Bon, en tout cas, Botaï, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que donc Binyamin, il est la pierre angulaire de l'identité d'Israël.
Mais on n'entend pas, c'est drôle.
On n'entend pas, Nahum.
Il est la pierre angulaire.
Il est la pierre angulaire et tout le monde se bat pour lui.
Mais on voit quand même que ce n'est pas un enfant. Il est adulte. Il a 22,
23
ans.
Ah non, bien sûr. Bien sûr. Ouais, alors, maintenant, la coupe est pleine.
Je crois que si tout le monde se bat pour lui, c'est que tout le monde comprend.
Mais bien sûr, tout le monde comprend, tout tourne autour de lui, bien sûr. Non, le problème, c'est que la coupe est pleine. Yosef comprend qu'il a fait une erreur. Parce qu'il comprend enfin que Béhémeth, ils ont fait tchouva de leur comportement avec lui, voilà. Et que Béhémeth, il pensait que lui, il n'était plus là. Velo yachol Yosef leitapek lechol anitzavim alav. Vayikrav otsiu kol ish me'alai. Velo amad ish ito beitvada Yosef elecha. Il fait sortir tous les Égyptiens et il veut se dévoiler à ses frères. Tout le monde a entendu les pleurs de Yosef. Vayomer Yosef et Echav.
Ani
Yosef.
Ça doit être terrible.
Attends deux secondes. Ani Yosef.
Faire un film là.
Mon père est-il vivant?
Ahod Avichai. Mon père est-il en vie?
Il est encore vivant.
Non, mais même s'il a fait une
mais est-il encore vivant? Attendez.
Pourquoi il dit ça?
C'est quand la dernière fois qu'il lui a demandé?
Oui, il y a.
Il le sait déjà.
Quand il lui a demandé la dernière fois?
Avant qu'il parte, qu'il reparte. Quand ils sont arrivés.
Quand tu lui as dit que mon père.
Quand ils sont arrivés,
le début, le début.
Quand ils sont arrivés au début.
Yehuda, il a reparlé de son père.
Mais voilà! Hier, il a eu des informations sur papa.
Oui, d'accord.
Qu'est-ce qu'il nous voudrait de nous?
Donc pourquoi il nous demande ici?
Regarde-moi
ça.
Depuis longtemps, il sait
quoi. Regarde-moi ça. Page. Regarde ça. Attends.
Il se souvient de ce qu'il a étudié avec son père, peut-être.
Regarde.
Il dit pas la vérité, ou quand il dit ça.
Attends.
C'est le père qui l'a dit ça.
Ils sont pressés,
c'est juste. Incroyable.
Ils sont pressés, c'est juste.
Sablanout.
Attends. Tac. Vayomer à Shalom, à Vichem, à Zaken, à Cher Amarte, Modenu Chai. Vayomer Shalom. C'était quand? Hier. Sauf que là, il a demandé, est-ce que votre père est encore en vie? Shalom Avichem. Et là, il dit, Aod Avi Chai. C'est la première fois depuis maintenant 13 ans
qu'il dit papa.
Qui redit que papa, c'est son papa. Pourquoi ?
Pourquoi, voilà, c'est ça.
Pourquoi est-ce que, pendant toute la période où Yosef est le vice-roi d'Égypte, il n'a pas envoyé un mail à papa ?
Oui, il avait le papa aussi n'a rien envoyé. N'a pas
non, mais parce que papa, il pense qu'il est mort.
Il est mort.
Mais d'accord, donc ma question n'est pas sur Yaakov. Yaakov, c'est normal qu'il n'envoie pas un message.
Depuis le premier voyage, il
mais Yosef.
Mais Yosef, il comprend parce que son père,
il Écoute, si tu nous réponds à cette question, pourquoi il n'a pas téléphoné à son père ?
Il n'avait pas que.
Non, Bota, il ne s'est pas shoot.
Il avait plus de batterie. Il y a quelque chose entre Yaakov et
Yaakov.
C'est la question. La question qui me perturbe.
Parce qu'il y a un livre qui dit qu'Israël.
Il savait. D'accord.
Mais il n'a pas parlé.
Bah évidemment.
C'était interdit.
Parce qu'il fallait que ça se passe comme ça.
Alors, donc, il y a un secret.
Ah bah évidemment.
Il y a un secret entre Akadosh Baruch Hu et Yaakov.
D'accord.
D'accord. Maintenant, il faut
savoir. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, Yosef ? Tu veux que je te dise ?
Ah ouais, je
veux. Eh ben, je vais te dire.
Mais ça fait 20 ans que je pose une question. On est venu
pour ça. Eh ben voilà, on est venu pour ça.
Alors, laissez passer.
Alors, je vais vous dire. Première, deux réponses.
Ah.
La première, il ne peut pas. La deuxième, il ne veut pas.
Il peut pas parce qu'il est au vet paro.
Non, il peut quand même envoyer un message. Ah, bon, au vet paro, il peut dire je suis le serviteur de Pharaon, j'en ai.
Il peut pas.
Mais il peut pas parce que son père lui a dit l'er tiré et shlom achecha v'achar tashiveni davar. Va faire la paix avec tes frères et ensuite tu me feras un compte rendu. Tant qu'il a pas fait la paix avec ses frères. Il peut pas faire le compte rendu à papa. Ça, c'est la première raison, il peut pas. Deuxième raison, il veut pas, parce qu'il pense que son père est complice. Qui m'a envoyé chez mes frères ? Qui m'ont vendu ? C'est papa.
Voilà, j'avais jamais entendu cette
question.
Mais quand il comprend maintenant qu'il s'est trompé dans la façon de comprendre les événements, alors tout d'un coup, papa, c'est pas sa faute. Donc, comment va papa ? Ça y est, je redeviens un enfant de la famille. Ok ? Aod Avi Chai ! Ok ?
C'est bon, Shabbat tranquille.
C'est bon ? Yala. Yala. Alors, très bien. Vraiment, Yosef Elchav. Estira. Vraiment, Aod Avi Chai. Velo Yachlu Echav Laanot Oto, Kiniv Alou Mipanav. Son bouche bée, comme on dit. Yomer Yosef Elechav, Geshuna Elai, Vaigashu. Vayomer Ani Yosef Achichem, Asher Mechartem Oti Mitzrayim. Je suis Yosef, votre frère, que vous avez vendu en Égypte.
Ah, il pense quand même que c'est eux
toujours.
Qui l'ont vendu toujours.
Toujours.
Ah, c'est eux qui l'ont vendu, quoi.
Quand il dit Geshuna, venez vers moi, avancez vers moi. N'ayez pas peur, en gros. Le Midrash, Rashi nous dit. Regardez ce que dit Rashi. Ra'a otam nesogim le'achor. Ils ont reculé. Alors il leur dit, Amar achshav, achshav echay nichlamim. Kara lahem bidishon rakav et achanunim, ve'era lahem sheu maoul. C'est-à-dire qu'il leur a parlé avec énormément de miséricorde et il leur a montré qu'il était circoncis. Quoi ? Il a enlevé sa jupe ? Non.
Ah bon, alors ?
Il leur a parlé de sorte qu'ils comprennent qu'il est circoncis. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Tu fais partie de la famille.
Ça veut dire qu'on parle différemment quand on est circoncis et quand on ne l'est pas.
Il peut dire qu'il
c'est quoi la circoncision ? C'est quoi la circoncision ? La circoncision, c'est... Hein ? Oui, la brite. Mais c'est quoi ? C'est couper... La bestialité, l'animalité la plus évidente de l'homme. Alors, la partie intime de l'humain, c'est son instinct primaire de reproduction animale.
C'est les liens qui existent entre Hachem et les hommes. Je complète sur complétude de la part des hommes.
Mais c'est quoi cette... D'accord, tu as raison, mais c'est quoi cette complétude ? C'est que j'ai brisé un petit peu l'enracinement à la terre, l'enracinement à la nature. Le sexe de l'homme, eh bien, c'est la partie de son corps qui va faire la chose la plus animale qui soit. Et donc, on va couper cet endroit-là pour dire, tu n'es pas dirigé uniquement par cette zone-là, tu n'es pas dirigé uniquement par ton côté animal. Donc, tu peux parler aussi de manière animale ou tu peux parler de manière circoncise. Ok ? Donc, ça veut dire que... Non, c'est moi, n'ayez pas peur. Ve'ata. Al te'atsevu. Ve'al yichar be'enechem ki mechartem oti ena ki lemichya shelach ani Elohim lifnechem. Qui disait, ne soyez pas triste que vous m'ayez envoyé ici. C'est Dieu qui a voulu que je pourvoie. Qui disait, Shnataim arav bekerev haaretz ve'ot chamesh shanim asher en charish ve'katir. וישלחני אלוהים לפניכם לסום לכם שארית בארץ ולחיות לכם נפלטה גדולה. Dieu m'a envoyé ici pour que je puisse pourvoir à vos besoins pendant la famine. ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים ואשימני לאב לפרעה ולאדון ולכל ביתו ומושל בכל אשר ארץ מצרים. Finalement il leur dit, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici.
Oui, mais enfin, à quelques
roues, il fait une histoire. Ce serait une troisième explication.
Non, mais attendez.
C'est contraire avec ce qu'il vient de dire quelques phrases plus tôt.
Il y a deux phrases, il a dit, vous m'avez vendu, mais c'est pas grave. Là, maintenant, il dit, non, c'est pas vous.
Non, mais je pense qu'il a compris, il a réalisé.
Non, mais attends.
Non, mais quand
il a réalisé.
Oui, mais c'est pas lui qui l'a vendu.
Après, il a dit, il y a deux secondes, c'est vous, mais c'est pas grave.
C'est pas lui. Quand il dit, c'est pas vous, il fait comprendre que vous avez été l'objet de quelque chose.
Ouais, tout à fait. L'objet, mais ils sont responsables ou pas ?
Hein ?
Ils sont responsables ou pas ?
Bah, lui, ils ne sont pas responsables.
Et là, non.
Si, oui, ça dépend de quel point se passe.
C'est le maître de Baruch qui a fait tout ça.
Le maître, c'est...
Ce que vous voulez dire.
Si,
mais toi, tu es responsable ou pas, alors ?
Eh bien, ils ne sont pas responsables.
Rabotai, voilà, voilà. Non, 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 là, il faut qu'on parle sérieux business. Il faut qu'on parle un petit peu sérieux. Attention, parlons sérieux. Disons que tu m'as énervé. Et à ce moment-là, comme tu m'as énervé beaucoup et que je ne me contrôle pas, eh bien, j'ai dit bas les masques. Je t'ai enlevé ton masque.
Enlevé.
Comme ça. Et je t'ai mis une baffe.
Ouais. Que le mieux t'en a une.
Je m'en souviens encore.
Voilà. Et à ce moment-là, aïe aïe aïe. Aïe, 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 aïe.
Trois fois.
Non seulement aïe, 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 mais en plus, je t'ai décroché la dent.
Aïe, aïe, aïe.
La couronne.
Même plus que ça.
Hein? Et là, tu dois aller chez le dentiste.
Aïe, aïe, aïe.
Aïe, aïe, aïe.
Et alors?
Et tu vas chez le dentiste.
C'est méchant, hein, mais on le comprend.
T'as vu, hein? Mais bien sûr.
On ne dirait pas. Hein?
Et à ce moment-là, tu vas chez le dentiste. Et le dentiste, il dit, bon, on va faire une radio et tout, machin. Et là, on voit dans la radio qu'il y avait une terrible carie qui était en train de se développer. Et que si on l'avait laissé encore un, il aurait fallu
une
faire...
radio pire que ça.
Ah, mais ça aurait été terrible.
Pire que la barre.
Un abcès de malade. Donc, écoutez, vous avez qu'à remercier la personne qui vous a envoyé ici. Bon, toi... T'es plein de Emouna, et donc tu dis merci Ribono Shelola, extraordinaire, quelque chose qui était négatif, tu l'as tourné en positif, c'est fantastique. Mais ça, c'est toi. Moi, le lendemain, je sais pas ce que c'est. Le lendemain, j'apprends que tu as été chez le dentiste, qu'il a vu que tu as un abcès de malade et que grâce à ma baffe, eh bien, tu n'es pas à l'hôpital pendant une semaine. Mais pourquoi il ne me dit pas merci ? C'est un scandale ! Eh bien parce que moi, la question est de savoir au niveau de la loi juive, est-ce que je suis responsable de l'action que j'ai faite ? Ou je n'ai qu'à dire, ah, c'est pas moi, c'est Dieu ! Je ne suis que la main de Dieu.
Non, là tu es responsable.
Donc ça veut dire que je dois lui payer les frais dentaires. Oui. Ah, non, d'après la halakha, tu dois lui payer les frais dentaires.
S'il est responsable, oui.
Cinq trucs.
Ah oui, mais Bochette, Rapouille, Vézé.
Ouais.
Mama, ça, c'est tant que je n'ai pas fait teshuva. Lorsque j'ai fait teshuva, parce que je me suis rendu compte que te mettre une baffe, c'est pas bien. Alors, j'ai payé, parce que si y a, je ne peux pas, la tchouva n'enlève pas ce que je dois à la personne.
Ah.
Bien sûr. Mais moi, maintenant, après avoir payé, je fais un processus d'introspection et je me dis, Behemet, c'est pas bien ce que j'ai fait. Et je lui demande pardon. Non seulement je l'ai remboursé, mais je lui demande pardon. Et il me dit, Mahou lecha, c'est bon, Mahou lecha, c'est bon, t'inquiète. Je regrette de l'avoir fait. Et je promets de ne plus le refaire. Je fais tchouva. Ah, à ce moment-là, lorsque j'ai fait tes tchouva, cette action, j'en veux plus. Je me détache complètement de l'action. Je me désolidarise complètement. Donc à partir de ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il dit, top, alors elle n'est plus à toi. Elle est à moi. C'est ce que nous dit le Talmud. Gdola Teshuva. Je me décharge, je n'en veux plus. Si je pouvais revenir en arrière, je ne l'aurais pas fait. Mais Dieu, il voulait que ça se passe. Pourquoi? Pour qu'il n'aille pas à l'hôpital pendant une semaine.
C'est ça.
Maintenant, si ça n'avait pas été moi, Dieu, il aurait trouvé un autre truc. Tu serais peut-être pris, je ne sais pas moi, une balle de foot tirée par inadvertance par un enfant qui serait arrivé là. Ça aurait pu arriver aussi. Ou alors, tu aurais pu voir une belle voiture dans la rue et tourner la tête et pas voir
le poteau
et boum, Dom Chanet. Dieu, il voulait que ça t'arrive. Est-ce que moi, j'ai été son bras armé? Je ne peux pas dire ça, parce que le judaïsme admet que tu es responsable de tes actions. Donc, tant que tu n'as pas fait tchouva sur les mauvaises actions que tu as faites, elles sont à toi. Et toutes les conséquences de l'action, elles sont à toi. Mais à partir du moment où tu as fait tchouva, t'en veux plus de cette action. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, ok, Zécheli, je prends l'action sur moi. Et à ce moment-là, ta tchouva, elle est shlema. C'est ce que Yosef leur dit. Vous m'avez vendu, mais c'est pas grave, Dieu il a géré. Mais j'ai entendu que vous avez fait tchouva. Pourquoi j'ai entendu? Parce que maintenant vous êtes prêt à vous battre pour Binyamin. Parce que je vous ai entendu dans la prison dire, c'est pas bien ce qu'on a fait. Ah, donc c'est pas vous qui m'avez vendu. Donc c'est Akadosh Baruch. C'est-à-dire, il y a ici un processus de retour fantastique qui se met en place. Retour pour les frères, et retour pour Yosef dans la famille. Seulement, tout est beau, tout est bien.
Mais
il y a, bah oui, il y a quand même un problème, parce que maintenant la famille est retrouvée, c'est cool. Mais qu'est-ce qu'il dit? Allez dire à papa de venir.
Aïe, aïe, aïe.
Au lieu de
tous rentrer à la maison.
Alors, tous rentrer à la maison, lui, il ne peut pas.
Lui, il ne peut pas.
Mais qu'est-ce qui l'empêche de faire apporter tous les mois des chariots de grains à papa Yaakov? Yosef encore pense que l'idéal, ce sera l'Égypte. Qu'il ne faut plus être en Israël, mais qu'au contraire, il faut dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde, chez les Goyim.
C'est cool pour le Mashiach, quoi.
Non, parce que le Mashiach, il part de Jérusalem.
Ouais, mais si lui, ouais, mais c'est d'ailleurs, mais enfin, si lui, il déplace ça, d'abord, qu'on ait la Goula chez nous, d'abord. Ensuite, qu'on la diffuse dans le monde, etc. Lui, il veut déjà diffuser dans le monde au début de l'histoire.
Oui, mais c'est pas seulement qu'il veut diffuser, parce que diffuser, si tu pars de l'origine, c'est bien. Mais lui, il veut aller chez eux.
C'est
que la Géoula, ça se passe là-bas.
Ouais, ouais.
Et ça, c'est un vrai problème.
Ben oui.
Son idéal à Yosef, c'est de penser que ça va maintenant passer par l'Égypte.
Oui,
c'est... N'oublie pas qu'il est influencé par son propre rêve.
Ouais. Très certainement.
Mais je comprends pas trop, puisque ça va être, il va y avoir ma chère Ben Yosef, donc il va rechanger.
Et voilà, t'as compris. Yosef, c'est pas ma chère Ben Yosef, c'est deux choses différentes. Quand Yosef comprend-il que son projet d'amener tout le monde, ça ne marchera pas, c'est lorsque, au final, vous savez, Yosef, plus la famine continue, et plus les gens viennent le voir, ils disent, il a fait quelque chose, et Yosef commence à s'approprier de toute l'Égypte. D'abord le bétail, ensuite les personnes, les terres. Mais il y a un truc qu'il n'arrive pas à acheter.
Les Kohanim.
les terres des Kohanim, de l'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui restera fondamentalement l'Égypte. Et ça, ça fera tomber tout ton jeu de cartes.
Mais Rachid dit que c'est pour protéger ses propres Kohanim.
C'est un gamin. Mais il n'empêche qu'au final, tu n'arriveras pas à avoir la main mise partout.
Je ne peux rien faire contre eux.
Je crois aussi, parce que quand ils ont envoyé les accords et tous les juifs de, enfin, de, en Égypte, ils leur ont dit, vous allez rester comme si c'était des étrangers.
Exactement.
Et là, comme
exactement.
Ils se sont installés.
Exactement.
Et c'est là la force qu'ils ont payé.
Et ça, c'est du point de vue des frères. Moi, je parlais pour l'instant du point de vue de Yosef.
D'accord.
Mais tu as tout à fait raison. Ça, c'est pourquoi Yosef les fait venir. Je dis, Yosef va avoir un changement de compréhension lorsque il verra que Admat HaKohanim, on ne peut pas les toucher. Donc, il voit que ça ne marchera pas. Et donc, il fait tchouva et il dit finalement aux frères, à ses frères, quand vous partirez, ramenez mes ossements avec vous. C'est-à-dire que non, j'ai compris finalement que ça passera par Jérusalem et je deviendrai ma chère Ben Yosef. Mais du point de vue des frangins, que Yosef les amenait en Égypte, bon, bah, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que s'il ne veut pas nous donner du grain, il faut bien qu'on en ait. Mais pourquoi, au bout de 5 ans de famine, ils ne reviennent pas?
Bah oui, il n'y a plus de famine.
L'erreur est là, fatale.
Ah, eh bien, effectivement, ça, c'est... Oui.
Mais il refait un petit peu l'histoire de papa, qui est resté chez Laval.
Oui, mais là, eux, ils veulent même plus rester que...
Ils étaient bien.
Parce que papa, il est resté chez là-bas, chez Laval.
Ils se sentaient bien en Égypte.
Ils étaient bien là-bas. Pour les corbeaux,
on a
l'universalisme.
Et là, en principe, c'était...
Yosef, il est dirigé vers le monde. Yehuda est dirigé à l'intérieur, vers le Beth Amidash.
Le problème de Yosef, c'est qu'il est devenu un ambassadeur. Et le problème de tous les ambassadeurs, c'est que plus ils restent en poste, plus ils épousent la culture du pays dans lequel ils sont. Maintenant, les Bnei Israël, eux, ils arrivent en Égypte. Eux, ils ont un autre problème. Vous savez quel est leur autre problème?
C'est un kiff, l'Égypte.
Complètement.
Ils ont des moutons, et l'autre, ils attendent des moutons.
Mais attends, c'est pas ça le problème.
On leur donne un gros pays pour manger, pour
c'est
les
génial.
Moutons et tout.
C'est génial, c'est l'Eldorado.
Il y a
tout ce qu'il faut.
Ils sont la Silicon Valley de l'époque.
Le rêve de Yosef, c'est 7 ans. Bon,
oui.
Bon. Et là, il arrive au bout de 2 ans. C'est oui. ça, au bout de 2 ans, Yaakov, il rentre en Égypte. En principe, la famine aurait dû disparaître. Et on dit que ça se poursuit.
Mais ça se poursuivra que 5 ans et non, enfin, elle durera que 5 ans et pas 7 ans.
Ah, je sais pas ça.
Si, si. Mais là, je te dis qu'elle a été quand même raccourcie de 2 ans. Par le mérite de Yaakov.
Ce que je sais, c'est que Big Goshen, la terre est grasse par rapport aux Égyptiens qui sont obligés de supplier Yosef, bon, et le Pharaon, de leur donner des semences. Et donc, il y a une sorte de. Moi, mettez à leur place.
Mais évidemment! Mais évidemment!
C'est pas antisémite.
Yosef, il a fait venir toute sa famille. D'abord, il les a placés à tous les trucs du gouvernement. Ils sont dans le 16e. Et nous, on trime comme des pas possibles. Attends! Mais bien sûr! Hein, le problème des frères de Yosef, c'est qu'eux, ils arrivent. Quand ils sont arrivés, ils ont dit Irsa, Pirsa! Ils ont dit Ah, l'Égypte! Et puis au bout de 6 mois, ils ont pu dire « Ah, l'Égypte !» Ils ont dit « Ah, l'Égypte
ouais. !»
Et puis au bout d'un an, ils ont dit « Égypte oh. !» Et puis au bout de 2 ans, ils ont dit « Ah, l'Égypte !»
Et encore les enfants et les petits-enfants.
Bien sûr. Et c'est pour ça que le dernier verset de la paracha nous dit « Vayeshev Israël !» Dernier verset de la paracha, dans la page 193. Ouais. Il nous dit « Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen » Et Israël s'est installé dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Pourquoi dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen? Attends, pourquoi dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen? Goshen, c'est en Égypte.
Non, dans la province.
Alors dis-moi, dans la province de Goshen. Tu dis pas, ils sont arrivés dans le pays de la France, dans le pays de Paris.
C'est-à-dire qu'ils veulent coloniser, quoi.
Ça veut dire que quand tu es arrivé à Goshen, tu avais l'impression d'être dans un autre pays. Tu es arrivé à Goshen, tout était marqué en hébreu. C'était marqué en yiddish. Ouais. Il y avait des yeshivot partout, il y avait des restaurants cachers partout.
Ah.
Je pensais pas que t'étais en Égypte.
Ouais, Brooklyn.
C'est à Brooklyn, c'est bon au parc. Vaye achazuba. Ils en ont pris possession. Mais ça veut dire également, ils ont été embourbés dedans. Les achez, comme le bélier qui est embourbé dans le buisson avec Abraham. Vnechaz basvach bekarnav. Ils sont complètement embourbés dans cette Égypte qu'ils ont commencé à adorer. Vaifru, vaïrbu, meod. Et ils ont fructifié, et ils ont multiplié, et ils ont kiffé.
Voilà.
À tel point que nous dira le Kli Yakar que ce verset-là vient accuser les Béné Israël. Que lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils ont dit à Pharaon, nous sommes temporairement là à cause de la famine. Et que lorsque la famine était terminée, ils n'ont tout simplement pas voulu repartir. Les frères de Yaakov, à ce moment-là, c'est pas, et là je suis enregistré, je suis filmé, je vais le dire, attention, je vais le dire, et je m'en fiche des représailles. Mais les frères de Yaakov, ce n'est pas du tout Éric Zemmour. Ce n'est pas du tout Éric Zemmour. Parce que Éric Zemmour, il ne veut pas être les frères de Yaakov. Il veut être
égyptien.
Voilà. Nos midrash nous expliquent que nos frères, les Bnei Israël, ont gardé leur langue, ont gardé leurs habits, ont gardé leurs prénoms. Ça veut dire qu'ils sont. Et on sait bien que Éric Zemmour, il a un grand problème avec quelqu'un qui s'appelle Yosef. Ok ? Donc, les Bnei Israël ne sont pas assimilés comme Zemmour.
Zemmour, lui, il est français.
C'est un français de confession israélite.
Alors qu'il a appris à l'école juive et tout. Hein, donc
il... Et qu'il va à la synagogue tous les Shabbats, c'est pas le problème. L'assimilation française. Les frères de Yosef ne sont pas tombés encore là-dedans. Ils tomberont plus tard. Les 80% des juifs qui resteront en Égypte, c'est des Zemmouriens. Mais eux, là, ils sont pas Zemmour. Eux, eh ben eux, ils ressemblent beaucoup plus à ce que peut nous faire penser le grand rabbin de France lorsqu'il parle de rêve républicain, lorsqu'il dit qu'il n'y a aucun problème pour un juif d'habiter en France. Mais il continue à s'appeler Chaim, et il continue à parler en hébreu, et il continue à être le rabbin. Donc il n'est pas assimilé au niveau 100% culturel. Mais il a fait de l'Égypte, de la France, eh bien, un idéal de judaïsme.
Mais il est dans une ambiance.
Ils sont pleins.
Et ça, c'est un problème.
Ça leur convient.
Eh oui,
bien.
C'est évidemment un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que Admat HaKohanim, elle ne peut pas être achetée. Qu'au final, quand tu vas là-bas, à un moment donné, tu seras happé par le là-bas. Parce que tu ne peux pas dévoiler ce que tu dois dévoiler si tu es chez l'autre. Ça ne marchera pas. Alors tu vas peut-être pouvoir vivre ta vie et très bien, mais tu ne rempliras pas ton rôle.
Est-ce qu'il comprend ça, Zemmour?
Zemmour, lui, il n'a pas de problème. Il a dit, moi, je ne suis plus Israël.
Ouais, c'est ça. C'est...
Moi, je ne suis pas Israël.
Il est français.
Ne rentrons pas dans le Lachonara.
Elle a dit, je suis juif.
C'est sa culture. Je suis juif de culture chrétienne.
Elle a fait l'alliance.
Ça veut dire que nous sommes des juifs de culture arabe.
Ribon kolol anim. Mais, et je termine par là, on a dit au début de la paracha, Anochi et Erveno. Même Éric Zemmour et même Sarah Knafo, ce sont nos frères et sœurs, et on n'a pas le droit de les abandonner là-bas.
Exactement. Absolument.
Aide-moi
là. À condition qu'ils veulent être libérés.
Eh ben, tu sais quoi? Même s'ils veulent pas, on peut pas les abandonner.
Il faut dire aux Arabes de renvoyer.
Maintenant, moi j'ai une question tout à fait en dehors de tout
ça. Tov, vas-y, pose ta question.